Physiologie du goût, variété 14. Autre souvenir d'émigration. Le tisserand. En 1794, nous étions en Suisse, Monsieur Rostin et moi, montrant un visage serein à la fortune contraire et gardant notre amour à la patrie qui nous persécutait. Monsieur le baron Rostin, mon parent et mon ami, aujourd'hui intendant militaire à Lyon. C'est un administrateur de première force. Il a dans ses cartons un système de comptabilité militaire tellement clair qu'il faudra bien qu'on y vienne. Nous vîmes à Mondon, où j'avais des parents, et fûmes reçus par la famille Trollier avec une bienveillance dont j'ai gardé chèrement le souvenir. Cette famille, une des plus anciennes du pays, est maintenant éteinte, le dernier bailli n'ayant laissé qu'une fille qui, elle-même, n'a point eu d'enfant mâle. On me montra en cette ville un jeune officier français qui y exerçait la profession de tisserand. Et voici comment il en était venu là. Ce jeune homme, d'une très bonne famille, traversant Mondon pour se rendre à l'armée de Condé, se trouva à table à côté d'un vieillard porteur d'une de ces figures à la fois graves et animées, telles que les peintres la donnent aux compagnons de Guillaume Tell. Au dessert, on causa. L'officier ne dissimula pas sa position et reçut diverses marques d'intérêt de la part de son voisin. Celui-ci le plaignait d'être obligé de renoncer si jeune à tout ce qu'il devait aimer, et lui fit remarquer la justesse de la maxime de Rousseau qui voudrait que chaque homme sût un métier pour s'en aider dans l'adversité et se nourrir partout. Quant à lui, il déclara qu'il était tisserand, veuf sans enfant, et qu'il était content de son sort. La conversation en resta là. Le lendemain, l'officier partit et, peu de temps après, se trouva installé dans les rangs de l'armée de Condé. Mais à tout ce qui se passait, tant en dedans qu'au dehors de cette armée, il jugea facilement que ce n'était pas par cette porte qu'il pouvait espérer de rentrer en France. Il ne tarda pas à y éprouver quelques-uns de ces désagréments qui ont quelquefois rencontré ceux qui n'avaient d'autre titre que leur zèle pour la cause royale. Et plus tard, on lui fit un passe-droit ou quelque chose de pareil, qui lui parut d'une injustice criante. Alors, le discours du tisserand lui revint dans la mémoire. Il y rêva quelque temps et, ayant pris son parti, quitta l'armée, revint à Mondon et se présenta au tisserand en le priant de le recevoir comme apprenti. Je ne laisserai pas échapper cette occasion de faire une bonne action, dit le vieillard. Vous mangerez avec moi. Je ne sais qu'une chose, je vous l'apprendrai. Je n'ai qu'un lit, vous le partagerez. Vous travaillerez ainsi pendant un an, et au bout de ce temps, vous travaillerez à votre compte et vous vivrez heureux dans un pays où le travail est honoré et provoqué. Dès le lendemain, l'officier se mit à l'ouvrage et y réussit si bien qu'au bout de 6 mois, son maître lui déclara qu'il n'avait plus rien à lui apprendre, qu'il se regardait comme payé des soins qu'il lui avait donnés, et que désormais, tout ce qu'il ferait tournerait à son profit particulier. Quand je passais à Mondon, le nouvel artisan avait déjà gagné assez d'argent pour acheter un métier et un lit. Il travaillait avec une assiduité remarquable, et on prenait à lui un tel intérêt que les premières maisons de la ville s'étaient arrangées pour lui donner tour à tour à dîner chaque dimanche. Ce jour-là, il endossait son uniforme, reprenait ses droits dans la société. Et, comme il était fort aimable et fort instruit, il était fêté et caressé par tout le monde. Mais le lundi, il redevenait tisserand et, passant le temps dans cette alternative, ne paraissait pas trop mécontent de son sort. L'affamé. À ce tableau des avantages de l'industrie, j'en vais accoler un autre d'un genre absolument opposé. Je rencontrai à Lausanne un émigré lyonnais, grand et beau garçon, qui, pour ne pas travailler, s'était réduit à ne manger que deux fois par semaine. Il serait mort de faim, de la meilleure grâce du monde, si un brave négociant de la ville ne lui avait pas ouvert un crédit chez un traiteur pour y dîner le dimanche et le mercredi de chaque semaine. L'émigré arrivait au jour indiqué, se bourrait jusqu'à l'œsophage et partait, non sans emporter, avec lui, un assez gros morceau de pain. C'était chose convenue. Il ménageait le mieux qu'il pouvait cette provision supplémentaire, buvait de l'eau quand l'estomac lui faisait mal, passait une partie de son temps au lit dans une rêvasserie qui n'était pas sans charme, et gagnait ainsi le repas suivant. Il y avait 3 mois qu'il vivait ainsi quand je le rencontrai. Il n'était pas malade, mais il régnait dans toute sa personne une telle langueur, ses traits étaient tellement étirés, et il y avait entre son nez et ses oreilles quelque chose de si hippocratique qu'il faisait peine à voir. Je m'étonnais qu'il se soumît à de telles angoisses plutôt que de chercher à utiliser sa personne, et je l'invitai à dîner dans mon auberge où il officia à faire trembler. Mais je ne récidivais pas, parce que j'aime qu'on se raidisse contre l'adversité et qu'on obéisse, quand il le faut, à cet arrêt porté contre l'espèce humaine, tu travailleras. Le lion d'argent. Quel bon dîner nous faisions en ce temps à Lausanne, au lion d'argent. Moyennant 15 bahts, 2 francs 25 centimes, nous passions en revue 3 services complets, où l'on voyait, entre autres, le bon gibier des montagnes voisines, l'excellent poisson du lac de Genève, et nous humections tout cela à volonté et à discrétion, avec un petit vin blanc limpide comme eau de roche, qui aurait fait boire un enragé. Le haut bout de la table était tenu par un chanoine de Notre-Dame de Paris, je souhaite qu'il vive encore, qui était là comme chez lui, et devant qui le Keller ne manquait pas de placer tout ce qu'il y avait de meilleur dans le menu. Il me fit l'honneur de me distinguer et de m'appeler en qualité d'aide de camp dans la région qu'il habitait. Mais je ne profitai pas longtemps de cet avantage. Les événements m'entraînèrent et je partis pour les États-Unis où je trouvai un asile, du travail et de la tranquillité. Séjour en Amérique. Point de suspension. Bataille. Je finis ce chapitre en racontant une circonstance de ma vie qui prouve bien que rien n'est sûr en ce bas monde et que le malheur peut nous surprendre au moment où on s'y attend le moins. Je partais pour la France. Je quittais les États-Unis après 3 ans de séjour et je m'y étais si bien trouvé que tout ce que je demandais au ciel, et il m'a exaucé, dans ces moments d'attendrissement qui précèdent le départ, fut de ne pas être plus malheureux dans l'ancien monde que je l'avais été dans le nouveau. Ce bonheur, je l'avais principalement dû à ce que, dès que je fus arrivé parmi les Américains, je parlais comme eux. Je dînais un jour à côté d'un créole qui demeurait à New York depuis 2 ans et qui ne savait pas assez d'anglais pour demander du pain. Et je lui en témoignais mon étonnement. « Bah, dit-il en levant les épaules, croyez-vous que je sois assez bon pour me donner la peine d'étudier la langue d'un peuple aussi maussade ? Je m'habillais comme eux. Je me gardais bien d'avoir plus d'esprit qu'eux. Et je trouvais bon tout ce qu'ils faisaient. Payant ainsi l'hospitalité que je trouvais parmi eux par une condescendance que je crois nécessaire et que je conseille à tous ceux qui pourraient se trouver en pareille position. Je quittais donc paisiblement un pays où j'avais vécu en paix avec tout le monde, et il n'y avait pas un bipède sans plumes dans toute la création qui eût plus actuellement que moi l'amour de ses semblables quand il survint un incident tout à fait indépendant de ma volonté et qui faillit à me rejeter dans les événements tragiques. J'étais sur le paquebot qui devait me conduire de New York à Philadelphie. Et il faut savoir que, pour faire ce voyage avec sûreté et certitude, il faut profiter du moment où la marée descend. Or, la mer était étale, c'est-à-dire qu'elle allait descendre, et le moment de partir était venu sans qu'on se mît le moins du monde en mouvement pour démarrer. Nous étions là, beaucoup de Français, et, entre autres, un sieur Gautier, qui doit être encore à ce moment à Paris. Brave garçon, qui s'est ruiné en voulant bâtir Ultra Vires, la maison qui fait l'angle sud-ouest du palais du ministère des Finances. La cause du retard fut bientôt connue. Elle provenait de deux Américains qui n'arrivaient point et qu'on avait la bonté d'attendre. Ce qui nous mettait en danger d'être surpris par la marée basse et de mettre le double de temps pour arriver à notre destination, car la mer n'attend personne. De là, grand murmure, et surtout de la part des Français, qui ont les passions bien autrement vives que les habitants de l'autre bord de l'Atlantique. Non seulement je ne m'en mêlais pas, mais à peine m'en apercevais-je, car j'avais le cœur gros, et je pensais au sort qui m'attendait en France, de sorte que je ne sais pas bien ce qui se passa. Mais bientôt, j'entendis un bruit éclatant, et je vis qu'il provenait de ce que Gautier avait appliqué sur la joue d'un Américain un soufflet à assommer un rhinocéros. Cet acte de violence amena une confusion épouvantable. Les mots « français » et « américain » ayant été plusieurs fois prononcés en opposition, la querelle devint nationale, et il n'était pas moins question que de nous jeter tous à la mer. Ce qui eût été cependant une opération difficile car nous étions 8 contre 11. J'étais, par mon extérieur, celui qui annonçait devoir faire le plus de résistance à la transbordation. Car je suis carré, de haute taille, et je n'avais alors que 39 ans. Ce fut sans doute pour cette raison qu'on dirigea sur moi le guerrier le plus apparent de la troupe ennemie, qui vint me faire en face une attitude hostile. Il était haut comme un clocher et gros en proportion. Mais quand je le toisais avec ce regard qui pénètre jusqu'à la moelle des os, je vis qu'il était d'un tempérament lymphatique, qu'il avait le visage boursouflé, les yeux morts, la tête petite et des jambes de femme. « Mens non agitat molem, » dis-je en moi-même. « Voyons ce qu'il tient, et on mourra après. » S'il le faut. Alors, voici textuellement ce que je lui dis à la manière des héros d'Homère. Do you believe to bully me, you damned rogue? By God, it will not be so, and I'll overboard you like a dead cat. If I find you too heavy, I'll cling to you with hands, legs, teeth, nails, everything, and if I cannot do better, we will sink together to the bottom. My life is nothing to send such dog to hell. Now, just now. On ne se tutoie pas en anglais, et un charretier, tout en rouant son cheval de coups de fouet, lui dit, go, sir, I say. Allez, monsieur, vous dis-je. « Croyez-vous m'effrayer, damné coquin ? Par Dieu, il n'en sera rien, et je vous jetterai par-dessus bord comme un chat crevé. Si je vous trouve trop lourd, je m'attacherai à vous avec les mains, avec les jambes, avec les ongles, avec les dents, de toute manière, et nous irons ensemble au fond. Ma vie n'est rien pour envoyer en enfer un chien comme vous. Allons !» Dans tous les pays régis par les lois anglaises, les batteries sont toujours précédées de beaucoup d'injures verbales, parce qu'on y dit que les injures ne cassent pas les os. High words break no bones. Souvent aussi, on s'en tient là, et la foi fait qu'on hésite pour frapper, car celui qui frappe le premier rompt la paix publique et sera toujours condamné à l'amende, quel que soit l'événement du combat. À ces paroles, avec lesquels toute ma personne était sans doute en harmonie, car je me sentais la force d'Hercule. Je vis mon homme se raccourcir d'un pouce. Ses bras tombèrent, ses joues s'aplatirent. En un mot, il donna des marques si évidentes de frayeur que celui qui l'avait sans doute envoyé s'en aperçut et vint comme pour s'interposer. Et il fit bien, car j'étais lancé. Et l'habitant du Nouveau Monde allait sentir que ceux qui se baignent dans le Furens ont les nerfs durement trempés. Rivière limpide qui prend sa source au-dessus de Rossillon passe près de Belley et se jette dans le Rhône au-dessus de Périeux. Les truites qu'on y prend ont la chair couleur de rose et les brochets long blanches comme ivoire. Gut, 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 allemand. Cependant, quelques paroles de paix s'étaient fait entendre dans l'autre partie du navire. L'arrivée des retardataires fit diversion. Il fallut s'occuper à mettre à la voile. De sorte que, pendant que j'étais en attitude de lutteur, le tumulte cessa tout d'un coup. Les choses se passèrent même au mieux, car, lorsque tout fut apaisé, m'étant occupé de chercher Gautier pour le gronder de sa vivacité, je trouvai le souffleté assis à la même table, en présence d'un jambon, de la plus aimable apparence, et d'un pitcher de bière d'une coudée de hauteur.